Mission Vision avec Julie Châtelain.
Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Je suis tellement heureuse de vous retrouver pour une autre belle saison de Mission Vision. Et je vous rappelle, qu'est-ce que c'est cette émission? Eh bien, Mission Vision, ça le dit, Vision. On va parler de l'handicap visuel, mais en fait, pas uniquement de l'handicap visuel. Moi, de plus en plus, j'aime amener ce côté de sensibilisation où est-ce qu'on va parler à des personnes qui ne sont pas nécessairement en situation de handicap, mais qui vont faire des choses en lien avec le handicap. On en voit de plus en plus des personnes qui vont s'impliquer au niveau de projets, de recherche à l'université. Ils ne sont pas en situation de handicap, mais ils vont avoir cette sensibilité-là. Donc, moi, j'aime ça aussi, leur donner la parole. Et aujourd'hui, bien, je suis très contente parce que, justement, j'ai autant une jeune fille qui vient parler de son propre témoignage. Je suis en situation de handicap et on en a une tout de suite après qui n'est pas en situation de handicap, mais qui a fait quelque chose de vraiment extraordinaire. Donc, je vais commencer par aller rejoindre Cilia Cassel. Elle est en ce moment c'est une étudiante au conservatoire de musique. Donc, elle nous laisse une petite demi-heure dans sa fenêtre d'horaire d'école. Et je suis vraiment contente parce que sûrement qu'il y en a quelques-uns qui vont dire « Ah oui, ça me dit quelque chose, ce nom. » Ou peut-être pas, mais si je vous dis « jeune fille qui fait la voix junior », je me rappelle plus trop, là, c'était la première édition, en fait, de La Voix Junior, et elle était aveugle, et elle chantait de l'opéra merveilleusement bien. Donc, là, peut-être qu'il y en a qui disent « Ah oui, ça me dit quelque chose! » Donc, on va la retrouver. Bonjour, Cilia!
Bonjour! Ça fait plaisir!
J'ai fait une belle petite présentation! Cilia, je suis vraiment contente de t'avoir avec moi. Ça fait quelque temps qu'on essaye de s'attraper pour une entrevue, c'est ça. Mais là, on a réussi. Je suis vraiment contente. Et je fais une petite parenthèse. Oui, puis je fais une petite parenthèse pour dire que une de mes prochaines émissions, là, dans peut-être, je pense, deux émissions à peu près, je vais recevoir Alexandre Poitras, que tu connais très bien.
Oui, tout à fait. Conseiller pédagogique à cette époque-là.
Exactement, c'est ça.
Au cégep de Saint-Laurent.
Exactement, au cégep de Saint-Laurent. Il t'a aidé dans ton parcours scolaire. Je le connais bien, Alexandre Poitras. C'est un de nos collaborateurs et c'est un de mes très grands amis là, depuis qu'on a étudié ensemble en éducation spécialisée. Et c'est lui qui m'avait parlé de toi. Et là, j'avais dit, « Ah oui, cette jeune fille qui a fait la voix. » Et il m'a dit, « Ben oui, c'est moi qui l'accompagne. » Donc, je suis vraiment contente. On va apprendre un petit peu plus à te connaître. Parce que quand tu as fait la voix junior, je ne sais plus, c'est en 2016, 2017?
C'était en 2017.
OK. Et t'étais jeune, là, une adolescente, là?
Oui, c'est ça. J'étais en secondaire 2, mon Dieu, je me rappelle... Ben... 14 ans.
Oui, c'est ça! Et là, maintenant, tu as quoi? 20, 21?
22,
bon. Donc, c'est ça. Donc, t'es quand même encore toute jeune. Eh bien, Cilia, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de toi parce que, bon, je le sais que t'as une cécité complète. C'est ça. Donc, mais si on remonte là, dans le temps, là, au niveau de la petite Cilia, au niveau de ton handicap, est-ce que tu es née avec un handicap tout de suite, là, une cécité? Est-ce que ça arrive un petit peu plus tard?
Oui, alors je suis née donc, avec une anophthalmie congénitale. Donc, c'est une absence de globe oculaire, ça le dit dans le nom.
OK.
Et congénital qui veut dire de naissance. Oui, c'est depuis toujours, je suis ainsi.
Mais Cilia, quand tu dis... Parce que là, on dirait mon cerveau dit, hein? Absence de globe oculaire, ça veut dire absence de la structure de l'œil, dans le fond, pas d'œil.
Oui, donc en fait, l'œil s'est très mal formé, tout simplement. Et donc, effectivement, j'ai une absence. J'ai une absence du globe en lui-même.
Donc, ça veut dire que c'est assez évident qu'il n'y a aucune vision qui passe, là.
Exactement.
Donc, c'est vraiment, depuis que tu es née, tu es dans une noirceur absolue.
Exactement.
OK, mais ça veut dire, parce que je me rappelle pas quand tu avais fait la voix, est-ce que tu avais des lunettes de soleil ou est-ce que tu as les yeux fermés?
Non, je n'ai pas de lunettes. Moi, c'est avec des prothèses.
Ah.
Donc, mes yeux restent ouverts constamment, finalement.
Oui, oui.
La prothèse remplace le globe. En lui-même.
OK, donc c'est ça, tu as deux prothèses oculaires.
Exactement.
OK,
oui.
Et ça, est-ce que tu as eu ça jeune?
Oh, oui, depuis toute jeune, mon Dieu. Je pense que j'avais mes premiers, vraiment tout bébé. Dans mes derniers souvenirs, c'était, j'avais 4-5 ans, je pense, hein, que quand j'avais mes premiers, quand j'étais consciente pour la
oui.
première fois. De ces prothèses-là.
OK. Et là, toi, comme c'est t'sais, comme un handicap, dans le fond, comme une malformation, on n'est pas dans quelque chose là, d'héréditaire que dans ta famille. Bon, c'est ça. Donc
non.
Là, tes parents, ils ont un petit bébé qui est complètement aveugle. Comment ça s'est passé, toute petite? Parce que moi, j'ai un handicap visuel, mais moi, c'est dégénératif. Donc, je suis née
oui.
avec une malformation congénitale, moi aussi, mais c'est au niveau des nerfs optiques. Donc, j'avais
oui.
une très forte myopie. Mais j'ai quand même vu, là. Tu sais, j'ai quand même une vision, là. Donc, toi, comment ça se passe quand on est bébé, là, quand t'es toute petite et que t'es dans la noirceur totale?
Oh là! Là, je parlerai plus peut-être de ce que je sais, donc de l'extérieur de moi-même, c'est-à-dire de mes parents.
Oui!
Parce qu'on s'entend qu'on n'est pas conscient qu'on est bébé.
Oui!
Je pense que, d'après ce que j'ai entendu, j'étais quand même un bébé assez éveillé.
OK.
Malgré le fait qu'il n'y avait pas de réaction visuelle.
Mm-hmm.
J'étais quand même très, très réactive. Je cherchais à comprendre le monde. Et j'avais aucun dérangement, finalement, dans ma compréhension de ce qui m'entourait.
OK. Fait que c'est comme si toi, dans le fond, t'es parti avec ce bagage-là. Donc, tu ne voyais pas. Alors, tu t'es développé de cette façon-là. Et comme t'as jamais vu, mais t'as pas non plus l'espèce de deuil, je pourrais dire, de ne
Exactement.
Plus voir quelque chose que t'as déjà vu.
Exactement.
OK.
Ça.
Mais comme, justement, pis ça, c'est une question qu'on se pose, parce que moi, comme c'est pas ma situation, que moi, j'ai déjà connu les couleurs, je sais c'est quoi la vision, mais toi, justement, comme tu n'as pas de référence, comment ça se passe, ça?
Ben, j'ai plus une... Là, ça serait vraiment plus dans la théorie.
Oui?
Donc, effectivement, je n'ai pas de référence visuelle, mais je suis quand même dans un monde de... Dans un monde... Ils ont dominé par le visuel.
Oui, ben oui, absolument.
Donc, je comprends les références visuelles.
OK, mais je donne un exemple. Donc, tu veux t'habiller le matin. Mais
oui.
Comment tu fais pour savoir qu'un vêtement vert ne va pas avec un vêtement, tu sais, de je sais pas, parce que moi, je trouve toutes les couleurs font bien pratiquement ensemble, mais exemple, là, avec une couleur qu'on fait « Ah, tiens, c'est moins un vert qui va bien avec un rose, mettons, là. »
Pour les vêtements de la vie de tous les jours, j'ai pas forcément de difficulté à choisir parce que, par exemple, ben, jean ou survêtement avec un t-shirt ou un chandail peu importe, je sais que ça va quand même ensemble.
OK.
Sinon, il y a d'autres outils. Donc, il y a ce qu'on appelle, par exemple, Be My Eyes.
Oui.
Ou bien encore Seeing Eye. Ou juste, peut-être, quand il y a des personnes, peut-être, c'est moi, j'appelle parfois des amis voyants, puis je demande. Mais ça, c'est assez rare. Je veux dire, normalement, de mon côté, c'est assez facile de m'habiller. Concernant, par exemple, les vêtements de concert, les vêtements de spectacle ou bien des vêtements qui pourraient se porter dans des soirées quelconques. Ben là, c'est sûr que j'aime beaucoup avoir un référent.
Mm-hmm. Ben là, tu as parlé de Be My Eyes. Ça, dans le fond, c'est comme une application, un genre d'intelligence artificielle?
Oui, alors c'est une application qui, de base, se met donc en contact avec des bénévoles qui ont eux-mêmes cette application-là.
Ah oui, OK, je sais c'est quoi. Oui, oui, oui.
Et donc, on s'appelle et il y a quelqu'un qui répond et on pose les questions qui demandent des yeux. Donc,
oui.
Être mes yeux.
Oui.
Sinon, oui, effectivement, il y a un volet intelligent, il y a un volet AI. On prend donc une photo de quelque chose et puis...
On pose la question finalement à un bénévole.
On peut poser la question au AI. Donc, c'est basé sur... c'est propulsé, je pense, par OpenAI ou d'autres compagnies de AI, disons.
Qui peuvent venir être des outils, finalement, quand on a absence de vision. OK.
Oui,
comment ça se passait quand tu étais petite par rapport à la musique? Parce que, justement, la musique, c'est quelque chose, tu sais, on pourrait dire plus auditif, mais je sais qu'il y a des personnes que la musique... ils vont être transportés, voir des couleurs. Et tu sais, il y a comme quelque chose qui se passe au niveau de la musique. Toi, est-ce qu'il y a...
Oui. Donc,
ouais?
On parle de la synesthésie.
Oui.
Moi, je ne suis pas synesthésique.
OK.
Mais je suis extrêmement sensible à certains modes, à certaines tonalités. Et à certaines sonorités, c'est ça que j'essaie de
oui.
chercher.
Oui, OK.
Donc, depuis toute petite, j'avais les réactions face à certains modes, mais je ne comprenais pas forcément pourquoi.
OK.
Et donc, ce qui est super bien avec les études que je fais, c'est qu'au fur et à mesure de ma formation, je comprends de plus en plus comment mon cerveau fonctionne face à la musique.
Mmh.
Ça, c'est une science extrêmement intéressante parce que je pense même encore qu'on n'est même pas, on n'a pas encore découvert énormément de choses à la psychologie musicale, si je puis dire.
Oui, oui, absolument. Mais toi, tu dirais, parce que t'as parlé d'un comme ton cerveau là, tu sais qui c'est quoi tu dirais là comment ça fonctionne? T'as-tu comme un peu une idée?
Oh, par exemple, là je vais donner un exemple. J'essaie de pas trop utiliser des termes trop techniques, mais par exemple, un mode phrygien majeur, donc là, je prends un exemple comme ça.
Oui.
Ben, ça va me donner presque, même si je suis de base bien joyeuse et bien heureuse,
mm-hmm.
ça va me donner un sentiment de déprime totale. Donc, par exemple, je vais avoir une tristesse qui va me sortir de nulle part. J'aurais envie de m'enfuir, etc. Donc, vraiment, ça, c'est très intéressant et ça m'intrigue beaucoup, ce genre de réaction-là.
Mais là, comme tu dis, c'est vraiment en lien avec une sonorité, donc vraiment comme un son, mais
oui,
associé.
Ben, c'est ce qu'on appellerait la misophonie. Donc, ouais. La misophonie, ce serait de réagir négativement, par exemple, devant certains modes, devant certains sons. Et ici, ben, c'est vraiment, par exemple, les modes plutôt orientaux, pardon, qui vont me trigger de la sorte.
Est-ce que ça fait Est-ce que ça te fait ça aussi avec les sonorités des voix des personnes, comme exemple quelqu'un qui te parle tout simplement? Est-ce que tu peux ressentir ça aussi?
Très, 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 très rarement.
OK.
Très rarement.
OK, c'est vraiment plus par rapport à la musique.
Par rapport à certains modes musicaux, oui.
Ouais. Et toi, là, toute petite, parce qu'on se rappelle, dans la voix, tu as une voix cristalline. Tu vas chercher des notes, ce qu'on peut associer, là, moi, je ne suis pas experte au niveau du son, là, mais je suis capable de dire, on est dans le soprano, là. T'sais, toi, tu es très
oui.
soprano, très haut, très haut. Puis quand on dit voix cristalline, on l'imagine. C'est fragile, quasiment comme du cristal, là. Hein, c'est à peu près ça. Mais toi, c'est...
On dit cela.
Hein? Mais toi, c'est à quel âge que tu as réalisé là, que tu avais cette voix-là en toi?
À peu près 9-10 ans, je pense.
Okay.
J'ai commencé à tomber amoureuse du classique à ce moment-là.
Mm-hmm.
C'est drôle parce que justement, quand j'étais toute jeune, 4-5 ans, j'avais une petite radio et puis j'écoutais des postes comme Radio Classique, par exemple.
Mm-hmm.
Et bien, je supportais plus la musique instrumentale que la musique vocale.
Mm.
Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je trouve ça magnifique.
Mm-hmm.
Mais à cette époque-là, étrangement, cela m'insupportait. Et okay. À partir de 9-10 ans, ben, j'ai commencé à... Il y avait une pièce, il y avait donc un air d'opéra très connu, donc c'est le O mio babbino caro de Giannis Kiki de Puccini, qui m'a tout simplement...
Peux-tu nous faire juste un petit la 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 la? C'est...
Attention, je ne sais pas si ça va bien s'entendre au téléphone, mais ça fait... Oh mio bambino caro,
oui.
Mi piace bello.
Ça s'est très bien entendu, Cilia. On sait exactement c'est quoi la mélodie. C'est magnifique cette chanson et c'est magnifique de t'entendre la chanter. C'est incroyable. OK, donc c'est ce type de chanson-là quand tu étais jeune... Ça...
C'était l'air qui m'a immergée finalement dans le classique en général.
OK. Et là, parce que justement, comme tu dis 9-10 ans, mais toi, avec tout ton courage, tu as décidé d'aller à la voix junior. Comme ça.
si ce n'était pas de mes parents qui m'ont poussée, je.
Ah! OK, donc c'est tes parents qui t'ont dit, Cilia, inscris-toi à la voix.
Oui, c'est ça. Bon, j'ai eu quelques hésitations, et puis ensuite...
Mais tu l'as quand même fait, hein? Et je veux dire, c'est toi toute seule qui est allée faire l'audition devant tout le monde, et c'est toi qui a été sélectionnée. Je pense que c'était l'équipe de Marie-Mé...
Exactement.
OK, c'est ça. Puis, je pense que tu t'es rendue à presque toute fin.
Oui, c'est ça. Donc, j'étais rendue à la soirée de la grande finale.
Ah, c'est ça, c'est ça. Donc, fait que tu t'étais rendue à la finale. Et à partir de là, comme tu es adolescente, est-ce que ça t'a... parce que, tu sais, des fois, la voix ou d'autres émissions comme ça, ça peut comme donner, là, même si la personne ne gagne pas, ça lui donne des contacts et tout ça. Mais toi, est-ce que c'était clair à ce moment-là que tu allais poursuivre au niveau de tes études ou, là, tu étais prête à commencer une carrière?
Donc, ta question, c'est est-ce que ça perturbait le cursus scolaire. C'est ça que...
Ouais, ben tu sais, en fait, sans dire perturbé, mais plus comme, tu sais, toi, de dire, ah ben oui, tu sais, je vais finir mon secondaire, mais en parallèle, je vais travailler pour avoir un album ou... Mais là, t'as quand même poursuivi au cégep, et là, t'es rendu au conservatoire en musique, c'est ça que je veux dire?
Oui, ben c'est ça, en fait. J'avais pas encore tout de suite... réalisé que c'était dans la théorie aussi que je voulais aller. Donc, donc c'était ça m'a pris quand même du temps donc pour décider d'aller en cégep en musique. Parce que au début, avant cela, j'avais pensé plutôt essayer de simplement, sans forcément aller dans la théorie, aller simplement en pratique.
Oui, c'est ça.
Mais après ça, ben vu que j'avais quand même, je voulais vraiment aller en classique, c'était, je me suis juste rendu compte que ben il fallait quand même avoir des notions théoriques en partition, etc. Donc c'est là que j'avais vraiment décidé quasiment à la dernière minute d'aller au cégep en musique. Et puis voilà, je suis rendue à ma troisième année de baccalauréat.
Oui, c'est ça. Mais là, en fait, tu es au conservatoire. C'est quoi? C'est vu que c'est un bac, c'est 3 ans?
Oui, en fait, moi, je le fais en 4 ans.
OK. Mais là, dans le fond, tu n'as pas encore terminé. Mais quand tu vas avoir terminé ton bac au conservatoire, est-ce que là, après ça, tu poursuis ou...
Je compterai aller en maîtrise.
En maîtrise?
Oui. Oui.
En maîtrise de chant classique.
Exactement.
OK. Et si justement, là, parce que comme tu as 22 ans, tu es toute jeune, mais qu'est-ce que tu aimerais? Tu te vois où, là, dans le futur?
Ben, c'est sûr que mon rêve, ça serait de plonger entièrement dans le monde lyrique.
Mm-hmm.
C'est quand même un domaine extrêmement difficile, mais bah c'est un peu ce que je fais en fait, donc c'est un peu mon identité, disons, presque personnelle, donc oui, j'aimerais aller dans ce domaine-là, et à partir de là, ça serait, mettons, peut-être essayer l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal ou bien l'Institut d'art vocal ou d'autres options de la sorte.
Donc, ça veut dire qu'éventuellement, là, on aurait des chances de te voir sur une grande scène. T'aimerais ça?
Je le souhaite énormément. C'est une chose à la fois.
Oui, c'est ça. Mais Cilia, est-ce que tu vois que, parce que vu que tu es en situation d'handicap visuel, est-ce que tout ton parcours scolaire, là, tu dirais que de façon générale, tu as dû mettre les bouchées doubles, tu sais, pour y arriver, ou tu as quand même eu un parcours relativement facile?
Oui, donc il y a eu donc ta question c'était
mais en fait c'est est-ce qu'il y a eu des enjeux puis ça t'a demandé d'avoir encore plus d'efforts à mettre ou ça s'est fait un peu naturellement et facilement?
Non, moi je te dirais qu'il y a eu énormément d'enjeux.
Okay.
Il y a eu énormément de sarcelles, disons.
Mm-hmm.
Tout au début, puis même encore, je veux dire, après, il y a des moments où ça glisse plus facilement, puis il y a des moments où ça se freine un peu plus facilement. Il y a non seulement le temps d'adaptation, plus le temps d'adapter les documents aussi. Je pourrais t'en lister plusieurs. Là.
Oui, mais dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que ton parcours, ben c'est pas non plus quelque chose qui a été, tu sais, c'est ça,
un
long fleuve tranquille.
Non, non, non.
C'est ça, au contraire. Non. Et que même encore, là, tu dois travailler très fort par rapport à, pour compenser finalement, parce que t'as, même si c'est...
Ouais,
même si c'est du chant, même si c'est ta voix qui est beaucoup plus sollicitée que visuellement, là, c'est pas un domaine de fabrication de meubles avec les mains, là. Donc, c'est pour ça aussi que ça reste que l'handicap visuel est un enjeu dans le monde du chant.
Oui, en quelque sorte, oui, parce que si, par exemple, tu veux aller dans le domaine utiliser les partitions, etc., donc c'est ce qu'on appelle le musical, mais il y a aussi des logiciels qui sont, Dieu merci, accessibles par rapport aux partitions.
Ouais.
Mais il y a aussi, si je veux dire, j'ai non seulement... cette situation-là, mais également, je suis neurodivergente.
OK, oui, donc ça aussi, un autre...
Pour le TDA.
Oui,
exactement. Ouais. Donc, il y a beaucoup de moments où je lutte constamment, disons, contre moi-même, contre mon cerveau, pour pour garder un certain rythme.
Mm-hmm.
Et ça, ben, je me dis, je suis honnête parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver là-dessus.
Mm-hmm.
Ça peut être extrêmement difficile.
Ouais.
Et ça peut être même un cercle vicieux, psychologiquement parlant, mentalement parlant.
Mm-hmm.
Et c'est très, très dur d'avoir quelque chose qui puisse garder finalement le cap.
Ouais. Donc, et s'il y a justement, là, si les gens ils veulent voir un petit peu tu es qui, est-ce qu'on peut te voir sur, je sais pas, YouTube, Facebook, tu sais, où est-ce qu'on pourrait t'entendre chanter?
Oh oui, tout à fait. Donc, moi je dirais que le média social où je suis le plus à jour, c'est Facebook.
Facebook, OK.
Facebook, donc ma page Cilia Cassel Soprano. Sinon, oui, moi j'ai une chaîne YouTube.
Aussi. Parfait. Ben moi, je vais mettre toutes les informations pour que les auditeurs puissent aller t'entendre, te découvrir. Ta voix est merveilleuse. Merci infiniment, Cilia. Ça a été un grand plaisir.
Merci à toi. Merci énormément.
Merci. Bonne journée.
Bonne journée. Au revoir.
Au revoir. Et là, ben, comme je vous avais dit d'entrée de jeu, aujourd'hui, on recevait et une personne qui était en situation de handicap et une autre qui n'est pas en situation de handicap, mais qui a travaillé pour l'inclusion des personnes en situation de handicap visuel, Marie-Claude Garceau. On va la recevoir à l'instant.